Quelle commune de notre région, comme de toute la France, n'a pas son école, sa rue, sa place ou sa statue qui porte son nom ? Jeanne d'Arc fait partie de notre patrimoine. Toute cette année, nous fêtons le centenaire de sa canonisation. C'était en 1920, soit près de 500 ans après sa mort. Alors ce matin, avec mon invité, nous nous penchons justement sur ce paradoxe. Pourquoi l'Église a-t-elle mis tant de temps à canoniser la Pucelle d'Orléans ? Pour nous apporter des éléments de réponse, je suis très heureuse d'accueillir Philippe Faureau. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors nos auditeurs commencent à vous connaître, hein, puisque vous animez les fenêtres de l'histoire les mercredis et samedis, c'est sur nos ondes. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès à Toulouse, également professeur au séminaire Saint-Cyprien et diacre à Saint-Cernin. Voilà pour le curriculum vitae. Philippe, 500 ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'Église catholique pour reconnaître la sainteté de Jeanne d'Arc. C'était le 16 mai 2020 par le pape Benoît XV. 500 ans, c'est long. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait plus tôt ? Elle est tombée dans l'oubli, Jeanne d'Arc ?
Absolument. Jeanne d'Arc a disparu finalement de notre histoire nationale pendant très longtemps.
Réellement disparu.
Oui, quasiment disparu, sauf à Orléans sans doute, où on garde évidemment son souvenir lié à la libération de la ville en 1429. Mais sinon, elle disparaît, ou presque. On peut par exemple songer que Voltaire, en 1762, avait publié un ouvrage intitulé « La Pucelle d'Orléans », mais qui était un ouvrage un peu sarcastique quand même, y compris sur Jeanne d'Arc. Et en fait, le grand moment de la redécouverte, c'est le 19e siècle.
On va y arriver, bien sûr. Avant ça, on va essayer de comprendre tout de même. Ça veut dire qu'après sa mort, on est passé complètement à autre chose. Pourtant, elle semblait suivie, au moins avant son procès. Elle a réussi à lever une armée. Comment on explique que tout ça soit retombé ?
D'abord, l'aventure Jeanne d'Arc est très courte quand même dans le temps.
On va la resituer peut-être, hein. On est au XVe siècle.
Nous sommes effectivement au moment où la France connaît une crise politique, militaire extrêmement grave dans le cadre de ce qu'on a appelé au XIXe siècle la guerre de Cent Ans. Et effectivement, le nouveau souverain Charles VII, qui succède à Charles VI en 1422, est dans une situation extrêmement délicate, puisque son royaume est en très grande partie divisé, guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, présence anglaise, et lui-même est contesté comme souverain. Et c'est là où apparaît justement cette jeune femme, et l'aventure Jeanne d'Arc, c'est 1429 vraiment qu'elle débute avec la libération d'Orléans. Autre grand moment, c'est quand elle réussit à amener le roi jusqu'à Reims pour le sacre, moment déterminant parce que à partir du moment où le roi est sacré, la discussion sur sa légitimité ne se pose plus. Il est
bien
sacré,
sûr,
il est loin de Dieu, L'OINT.
Ouais.
Et puis ensuite, bon, elle va continuer à se battre parce que c'est une guerrière et prisonnière d'abord des Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. Et le procès débute en janvier 1431, jusqu'à son exécution.
Et d'ailleurs, il faut dire que, et c'est peut-être une explication, c'est l'Église qui l'a condamnée, Pierre Cochon, évêque de Beauvais.
Oui, et oui, c'est un tribunal d'inquisition composé d'universitaires ecclésiastiques. Donc effectivement, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal à l'époque, c'est l'Église qui condamne pour sorcellerie.
Ouais.
Elle est accusée d'être sorcière, elle est accusée éventuellement d'hérésie, et puis de briser les codes, parce qu'elle porte des habits d'hommes. Rien que cela, ça choque le contemporain. Et les Anglais, donc, trouvent des prélats dans leur zone de juridiction pour créer un tribunal d'inquisition qui la condamne, mais évidemment, il la livre ensuite aux Anglais, puisque c'est le bras séculier qui va brûler Jeanne d'Arc. Et donc, c'est également un tribunal ecclésiastique qui va la réhabiliter. Donc,
là, mais là, 500 ans plus tard.
Alors non, la réhabilitation se fait assez vite, parce que le procès de réhabilitation commence en 1450.
Ah oui.
Donc, vous voyez, c'est tôt, et aboutit en 6 ans plus tard.
Et pour quelle raison à ce moment-là ?
Parce que le roi Charles VII,
ah oui, celui-là
a tout intérêt.
Celui-là même que Jeanne d'Arc a fait sacrer tout
et
de même.
Oui, ouais. Et oui, et qui, c'est vrai, n'a pas fait peut-être tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de la libérer.
On le disait un peu simplé.
Ah,
pas tant que ça.
Non, 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 non. Son père avait été malade. Ouais. Son père avait avait des problèmes psychiatriques à partir de 1392. Mais Charles VII, c'est un grand politique.
Un grand politique. Il n'a pas fait grand chose pour Jeanne d'Arc, tout de même.
Et voilà. Bon, il ne fait pas grand chose pour Jeanne d'Arc. Il a tellement de soucis par ailleurs. Enfin, le royaume est à relever. Mais par contre, ce à quoi il tient, c'est que il faut à tout prix réhabiliter Jeanne d'Arc. Parce qu'il ne peut pas laisser courir l'idée qu'il a été aidé par une sorcière.
Ah.
Et non, parce que, je dirais, sa légitimité en souffrirait.
Bien sûr.
Donc il faut que l'Église dise qu'il y a réhabilitation possible. Et donc, le tribunal ecclésiastique de 1456 contredit le tribunal ecclésiastique de 1431 et réhabilite Jeanne.
Tout ça est calcul au service du roi, en réalité. Ah, hein.
L'intérêt de la monarchie, c'était de toute manière de réhabiliter cette femme. Et ensuite, eh bien, elle va se perdre, je dirais, dans les sables mouvants de l'histoire. La France va progressivement l'oublier.
L'image de la sorcellerie, de la sorcière, ça lui a collé un peu aussi à la peau, si je puis m'exprimer.
Je dirais, il me semble qu'à partir du moment où il y a réhabilitation, l'image de la sorcière disparaît, elle est réhabilitée. Mmh. Elle est réhabilitée. Mmh. Donc c'était ça le plus important.
Et alors, elle est réhabilitée, je l'ai dit, 5 siècles plus tard, c'est le 16 mai 1920. Là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui motive? Vous nous avez dit que Voltaire, déjà, avait tout de même écrit La Pucelle d'Orléans, donc il parle de Jeanne d'Arc, mais plutôt pour de son ton sarcastique.
Mon cœur, oui.
Qui et dans quel contexte elle réapparaît au XIXe siècle?
Alors effectivement, c'est le grand siècle de la redécouverte, c'est le XIXe siècle. Et en particulier les années 1840. Parce qu'en 1840, il y a des publications qui vont remettre Jeanne d'Arc sur le devant de la scène. Première publication, c'est en 1841, le 5e volume de l'Histoire de France de Jules Michelet, le grand historien libéral du 19e siècle, qui a beaucoup marqué notre historiographie. Et là...
Donc lui, il a fait un travail, il a exhumé un peu l'histoire de Jeanne d'Arc.
Il exhume véritablement Jeanne d'Arc, il y insiste beaucoup, et il en fait une sainte laïque. C'est-à-dire une femme, finalement, pleine d'abnégation, au service de son roi, mais il la laïcise.
Oui, parce que Michelet n'est pas connu pour son caractère très, très pro-clérical.
Non, il se méfie beaucoup de l'Église,
oui,
de l'Église de son temps. Il est de tradition anticléricale, Michelet.
D'accord.
Et puis, il y a un autre personnage, alors moins connu que Michelet, c'est Jules Quicherat, c'est un érudit, qui, entre 1841 et 49, publie plusieurs volumes de documentation sur Jeanne d'Arc, et en particulier la documentation du procès. Donc, si vous voulez, les années 1840 remettent Jeanne d'Arc sur le devant de la scène, et elle est récupérée un peu, par le biais de Michelet, par le camp libéral, voire républicain.
C'est la fille du peuple, en fait.
C'est la fille du peuple. Et alors, évidemment... Il va y avoir une réaction dans l'Église parce que Monseigneur Dupanloup, qui est évêque d'Orléans, fait un grand discours le 8 mai 1869 à l'occasion des fêtes qui localement célèbrent la libération d'Orléans. Et la
qui, elles, ont toujours eu cours.
Oui, alors Orléans n'avait pas oublié, hein, le reste de la nation plutôt, mais Orléans avait gardé l'idée de cette jeune femme qui avait libéré.
Mm-hmm.
Bon. Et donc, Monseigneur Dupanloup prend la parole à cette occasion, et en réaction justement à cette image d'une sainte laïque, entre guillemets, il présente au contraire la catholique qu'elle a été, et va engager l'idée d'un procès en canonisation, et le procès où l'on va regrouper les pièces, la documentation, commence en 1874.
C'est étonnant quand même ce va-et-vient. Elle a été beaucoup utilisée finalement, Jeanne d'Arc. Hein.
Mais elle est utilisée et utilisable par énormément de personnes dans la France du 19e et du début du 20e siècle. Parce que si on fait rapidement le bilan, je crois qu'elle est à la fois gênante et utilisable par tout le monde.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'Église, l'Église évidemment voit en elle la jeune fille catholique, qui a servi son roi. Mais en même temps, c'est l'Église qui l'a condamné quand même dans
oui.
un premier temps.
Et puis elle a porté les armes.
Ouais. Ce qui, effectivement... Et puis, après tout, l'Église l'a oublié elle-même pendant très longtemps. Ouais. Puisque Dupanloup, 1869, il y a quand même la différence.
Et puis il a fallu que Michelet s'y colle avant.
Et elle peut gêner les monarchistes du 19e siècle. Parce qu'elle a servi son roi, c'est indéniable. Et donc, c'est une fidèle sujette de Sa Majesté,
oui.
Charles VII.
Ouais.
Oui, mais c'est Charles VII qui ne fait pas tout pour la libérer. Donc, le roi, disons, fait preuve de réal politique. Bon. Elle peut gêner également, je dirais, les républicains du 19e siècle, voire du début du 20e siècle, quand la question de la colonisation se pose. Parce que, fille du peuple. Patriote. Or, nous sommes dans une France très patriotique. Oui, mais en même temps, elle est fidèle à son roi. Et puis, c'est une catholique. Donc, si vous voulez, elle a des faces utilisables et des aspects utilisables par tous les camps politiques de la France de l'époque.
De la France de l'époque et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on pense Jeanne d'Arc, malheureusement, si je puis m'exprimer ainsi, elle a été récupérée par l'extrême droite. Vous me disiez aussi, en préparant cet entretien, que Jeanne d'Arc avait aussi signé la réconciliation entre le monde catholique de l'époque et la République. On est au tout début du siècle, du 20e siècle, fin 19e, en plein séparation de l'Église et de l'État.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est contemporain du procès, c'est toute une série de crises entre la République et l'Église. Vous voyez, 1874, c'est le début du procès, 1897, c'est le début du procès à Rome. Or, nous sommes à quelques années de la rupture des relations diplomatiques en 1904, entre le Saint-Siège et la France, de la loi sur les associations qui va effectivement frapper beaucoup de communautés religieuses catholiques, et la loi de 1905 sur la séparation. Donc, si vous voulez, c'est un moment de tension. Et finalement, la canonisation de Jeanne d'Arc, c'est aussi, après la Grande Guerre, où catholiques, socialistes, radicaux, monarchistes, etc., se retrouvent dans les tranchées, c'est un personnage qui peut faire réconciliation. Et la canonisation de 1920, nous sommes donc effectivement sous le pontificat de Benoît XV, qui a été lui-même... quelque peu injustement accusé de germanophilie pendant la guerre. Il était le pape Bosch, comme on disait en France. Remarquez, pour les Allemands, c'était le pape français. Et c'est l'occasion, donc, y compris pour le Vatican, de faire un geste aussi de réconciliation. Et en 1920, vous avez deux décisions qui viennent de Paris. Le Parlement vote le 8 mai comme fête officielle. Et puis renvoie un ambassadeur à Rome. Donc vous voyez, c'est le moment de réconciliation.
C'est le moment de réconciliation. Un dernier mot, Jeanne d'Arc, aujourd'hui, est-ce qu'elle gêne encore l'Église catholique ?
Oh, je crois qu'il y a tout de même
prescription. Elle n'est pas si vénérée que ça.
Non, effectivement, je ne suis pas sûr que... Enfin, je répugne à parler de manière trop générale.
Ouais.
Mais enfin, je ne crois pas que ce soit... une des saintes auxquelles on pense spontanément dans le monde catholique aujourd'hui. D'autres figures qui ont été peut-être canonisées quelques années plus tard, Bernadette Soubirous par exemple, sont peut-être aujourd'hui plus marquantes dans les esprits. Jeanne d'Arc, elle est très connue. Est-ce qu'elle est priée régulièrement ? Je n'en suis peut-être pas sûr.
Et bien en tout cas, elle le sera. On pensera peut-être plus à elle que habituellement cette année qui marque les 100 ans de la canonisation de Jeanne d'Arc. Un grand merci Philippe pour ce rappel précieux. Canonisée 500 ans plus tard, on a compris, un personnage de réconciliation au début du XXe siècle, mais en même temps un personnage qui a gêné, un personnage qui a été aussi récupéré par tout le monde. Alors des festivités vont marquer l'année 2020. Et surtout dans des diocèses voisins, ceux du nord de la France, à Saint-Dié, mais peut-être aurons-nous des choses et des événements dans notre région prochainement et aux alentours de mai qui marquent le centenaire de la canonisation. Merci Philippe.
Avec grand plaisir.